les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans ses spécialités. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Mathias Audit, professeur de droit à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, évoque avec nous la faillite de l'État. Premier épisode. Un État peut-il faire faillite ?
Bonjour à tous, je suis ravi d'intervenir sur Amicus, dans le cadre de cette émission, les amphis d'Amicus. Le premier thème que nous allons aborder aujourd'hui est donc celui, un thème général, qui couvre l'ensemble de cette série d'émissions, c'est-à-dire la question de savoir si un État peut faire faillite. Alors, il est évident que c'est la première question qu'il est sans doute légitime de se poser. Un État, c'est-à-dire un être souverain, peut-il réellement être mis en faillite comme une vulgaire entreprise commerciale ? Pour y répondre, nous tâcherons de tirer peut-être les leçons de l'histoire, un petit aperçu historique, et puis voir également ce qui s'est produit dans une période plus contemporaine. Et enfin, je tâcherai de m'attacher à des questions plus authentiquement juridiques, comme celle de savoir si la notion même de faillite, qu'on connaît bien pour les entreprises, est adaptable et transposable à un État. Alors commençons par les leçons de l'histoire, qui sont toujours pertinentes sur ces sujets. Pour les introduire, peut-être qu'on pourrait évoquer une maxime que l'on prête à celui qui fut le dernier contrôleur général des finances de Louis XV, Joseph-Marie Terray, mais la phrase n'est d'ailleurs peut-être apocryphe, qui résume à elle seule la situation de la France, du Royaume de France, à cette époque, donc au XVIIIe, et du reste de la plupart des royaumes ou des couronnes européennes sous l'Ancien Régime. Et Joseph-Marie Terray disait la chose suivante: « La banqueroute est nécessaire une fois tous les siècles afin de mettre l'État au pair ». Ce qui signifie finalement que pour ce contrôleur général des finances, donc en charge des finances du Royaume de France, eh bien il était nécessaire pour l'État de faire faillite au moins une fois par siècle. Faire faillite une fois par siècle, pour quelle raison ? Eh bien, pour mettre un terme aux emprunts souscrits par le Royaume de France auprès notamment de ses sujets. Et sur cette question, sur la question de l'emprunt d'État, eh bien, nous avons un extrait qui est tiré d'un livre, d'un ouvrage, pardon, d'un film, pardonnez-moi, de François Ier de Christian Jacques, où la question de l'emprunt d'État est évoquée, et c'est du reste la première fois, est évoqué ici, le premier emprunt d'État dans l'histoire du Royaume de France.
Sais-tu aussi faire de l'or ? Les coffres de mon beau cousin Henri sont complètement vides.
Eh bien, un impôt nouveau, et les voilà pleins.
Un impôt ? Ah non, pas d'impôt. Le peuple a assez d'impôts à payer comme ça.
Eh bien alors, pas d'impôts, mais que diriez-vous d'un joli petit emprunt d'État ?
Un emprunt d'État, qu'est-ce que c'est que ça ?
Vous ne savez pas ce que c'est qu'un emprunt d'État ? Vous non plus ? Vraiment ? Oh, vous êtes en retard, alors. Écoutez, je vais vous expliquer. Restez assis, ne vous dérangez pas. Voilà, c'est bien simple, n'est-ce pas ? Le roi n'a plus d'argent, mais ses sujets ont quelques économies. Le roi emprunte les économies de ses sujets. Voilà.
Mais quand on emprunte, il faut donner des garanties, des gages.
Mais le roi donne en garantie sa parole, et comme gage, le trésor de l'État.
Puisque le trésor est vide.
Mais votre majesté, il ne l'est plus, puisque l'emprunt vient de le remplir.
Par Saint-Georges, mais c'est la vérité.
Mais le peuple n'apporte pas ses économies sans rien exiger en échange.
Oh, évidemment, on lui paye l'intérêt de son argent. Mettons à 5% l'an.
Mais avec quoi lui paye-t-on cet intérêt au peuple ?
Et avec l'argent qu'il vient d'apporter, voyons, sire.
Et quand l'argent est dépensé ?
C'est bien simple, on fait un nouvel emprunt.
C'est magnifique.
Oh, quel génie !
Admirable.
Alors on comprend parfaitement dans cet extrait, tout à fait pertinent, que finalement, pour un État, il y a deux possibilités de se financer. La première, c'est l'impôt. Et ici, le génie, en quelque sorte, de François Ier, c'est d'avoir inventé une autre source de financement, qui est l'emprunt, avec une forme de cavalerie qui consiste finalement à réemprunter pour rembourser les emprunts antérieurs. Outre cette cavalerie possible et qui a beaucoup existé sous l'Ancien Régime, il y a évidemment une autre possibilité qui est tout simplement de cesser unilatéralement de rembourser les emprunteurs. C'est ce qu'on appelait la banqueroute, ou ce qu'on appelait la banqueroute sous l'Ancien Régime, et ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt la faillite des États. Alors, si l'on examine la situation des États endettés, et notamment celle de la France au cours de l'Ancien Régime, on constate que, en fait, la France a fait défaut, c'est-à-dire a cessé de rembourser sa dette au moins à 8 reprises au cours de l'Ancien Régime. C'est une étude qui a été faite par deux économistes américains, Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff. La France, d'ailleurs, et bien d'autres États, puisque finalement, cette étude recense tous les épisodes de défaut par des États sur leur dette dans l'histoire. Et le propos général se résume dans le titre même de l'étude, qui est « This time is different, 8 centuries of financial folly », ce qu'on peut traduire en français par « Cette fois, c'est différent, 8 siècles de folie financière », et ce qui signifie en réalité que ces épisodes de banqueroute, eh bien, ils ont émaillé toute l'histoire de France et toute l'histoire, plus généralement, des États européen ou d'autres régions du monde. Pour ce qui est de la France plus particulièrement, il est vrai que son dernier épisode de faillite remonte à la Révolution française. C'est la dernière fois où la France a véritablement et ouvertement cessé le remboursement de sa dette. C'est ce qu'on a appelé la faillite des deux tiers, qui est intervenue sous le directoire et qui a causé un traumatisme dans la population française, puisque l'État révolutionnaire a décidé de ne pas rembourser les deux tiers de sa dette. Depuis cette époque, donc en 1797, la France n'a plus jamais, à proprement parler, fait défaut sur sa dette. Alors certes, la France n'a plus jamais fait défaut sur sa dette, mais ce que l'on constate, c'est que d'autres épisodes de faillite d'État sont intervenus dans d'autres régions du monde. Et si l'on fait un saut dans l'histoire, en quelque sorte, pour venir à une période plus contemporaine, on constate que les défauts d'État, en tout cas de certains États, sur leur dette, sont toujours aussi fréquents aujourd'hui ou au cours des 20 ou 30 dernières années. Et ici, sans doute, l'exemple le plus emblématique, c'est celui de l'Argentine, en 2001, qui est fort connu. Il s'agit à ce jour du défaut le plus important en matière de dette d'État, puisque l'Argentine, à l'époque, a décidé unilatéralement de faire défaut sur sa dette pour un montant qui était à l'époque évalué à 95 milliards de dollars. Ce défaut, pour la petite histoire, a été annoncé par le président argentin, qui était un président par intérim, qui est resté 5 jours au pouvoir, dans cette fonction, le président Adolfo Rodríguez Sá, dont le mandat donc, ne dura que 5 jours, et qui eut le temps de proclamer au cours de ces 5 jours un moratoire sur le remboursement par l'État de ses emprunts, moratoire que ses successeurs ont ensuite confirmé, à telle enseigne qu'il est devenu définitif. Et l'Argentine a mis en fait près de 15 ans à solder les conséquences de ce défaut. Donc on voit ici, disons, l'impact que peut avoir une décision comme celle-ci sur la situation d'un État. Et sans doute que l'autre exemple de la période contemporaine, c'est celui de la Grèce, qui est également fort connu. Et on se souvient sans doute qu'après la révélation de la situation exacte de ses comptes publics en octobre 2009, la Grèce a traversé, et traverse d'ailleurs encore aujourd'hui, une grande et profonde crise financière qui a d'ailleurs un temps déstabilisé toute la zone euro. Des négociations très tendues sont intervenues entre le FMI, la Banque Centrale Européenne et surtout tout un ensemble de créanciers privés de la Grèce, notamment des banques, d'ailleurs surtout françaises et allemandes, pour restructurer, en vue de restructurer la dette de l'État grec. Et finalement, en mars 2012, un accord de restructuration est intervenu et les créanciers privés, c'est-à-dire donc principalement des banques françaises et allemandes, ont accepté de renoncer à 53,5% de leurs créances, donc pour un montant total de 107 milliards d'euros. Donc en fait, ces banques ont accepté, à la faveur de cet accord de restructuration, de renoncer à 107 milliards d'euros, ce qui est une somme considérable. Alors, il est vrai que on a ici, à travers ces deux exemples contemporains, le sentiment que un État peut, à un moment ou à un autre de son histoire, ne plus être en mesure de rembourser sa dette. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il est mis dans une situation d'insolvabilité. Et la question qui se pose est celle de savoir si cette situation d'insolvabilité, elle peut être qualifiée de faillite. Elle peut l'être, à mon sens. Simplement, lorsqu'on parle de faillite d'État, on ne vise pas, comme pour les entreprises, une procédure de liquidation où on va distribuer les actifs restants de la société. C'est pas possible pour un État, bien évidemment. Un État ne peut pas être liquidé, et heureusement. Mais ce que l'on vise, en réalité, c'est la situation d'insolvabilité. C'est-à-dire, c'est l'hypothèse où un État, à un moment donné, ne peut plus rembourser sa dette. C'est ce que nous allons traiter au cours de ces différentes émissions. Et je vous dis donc, chers auditeurs d'Amicus, à la semaine prochaine.
Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.